Et par actualité. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 19 janvier 2017, mais ça, je pense que vous le saviez déjà. C'est l'émission Les Paractualités qui commence, animée pour vous par Clotilde Seil sur Canal M. Alors, les titres aujourd'hui. La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse souscrit aux objectifs du projet de loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité. 6 ans pour détecter la maladie de Lyme ou de Lyme, si vous préférez, et ça s'est passé aux États-Unis, mais pas ici. On n'a jamais pu détecter cette maladie sur une jeune personne. À Longueuil, on dépense près de 13 millions de dollars pour une passerelle pour piétons. Et en Beauce, eh bien, c'est extraordinaire, en une seule soirée, près de 40 000 dollars récoltés contre la sclérose en plaques. Et puis, par actualité nationale et internationale, soumettre la candidature d'un champion. J'aurai l'occasion de vous reparler de cela un petit peu plus tard. Alors, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse souscrit aux objectifs du projet de loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité, mais elle estime que certaines dispositions soulèvent des préoccupations en regard des droits et libertés de la personne. Dans son mémoire, présenté aujourd'hui à la Commission des relations avec les citoyens de l'Assemblée nationale, la Commission rappelle qu'elle a déjà la responsabilité spécifique de faire enquête sur des situations d'exploitation de personnes âgées ou de personnes handicapées en vertu de l'article 48 de la Charte des droits et libertés de la personne. La Commission a aussi réitéré son engagement à lutter contre l'exploitation des personnes vulnérables et ce, dans le respect des droits que leur garantit la Charte et en vertu de tous les moyens que celle-ci met à sa disposition. Au cours des 5 dernières années, la Commission a ouvert plus de 450 dossiers en matière d'exploitation de personnes âgées ou handicapées, que ce soit à la suite d'une plainte ou de sa propre initiative. Ce nombre représente environ 10% des dossiers d'enquête ouverts à la Commission au cours de cette période. La Commission, qui dit souhaiter s'assurer que les modalités envisagées en vue de faciliter le signalement de cas de maltraitance de personnes en situation de vulnérabilité respectent les droits qui leur sont garantis dans la Charte des droits et libertés de la personne, notamment le droit à la vie privée, qui englobe l'autonomie et la confidentialité. C'était un papier, la source, c'est Patricia Poirier de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Ça nous vient du Courrier du Sud. Au cours des 6 dernières années, Vanessa Grenier a vu sa santé dépérir sous le regard d'une vingtaine de médecins spécialistes qui n'étaient pas en mesure d'en déterminer la cause. La résidente de Longueuil vient finalement d'obtenir un diagnostic de la maladie de Lyme, mais aux États-Unis. C'est en faisant des recherches que j'ai trouvé que mes symptômes s'apparentaient beaucoup à ceux de cette maladie. Mais au Québec, si tu ne te présentes pas à l'hôpital avec un érythème migrant, donc une rougeur sur la peau à l'endroit de la piqûre, même si tu leur dis que ça ressemble à la maladie de Lyme, jamais ils ne vont te faire passer le test, déplore-t-elle. Fièvre, maux de tête, fatigue, douleurs musculaires, articulaires et même paralysie, les symptômes de la maladie de Lyme, transmise par la morsure d'une tique infectée par une bactérie, ressemblent à ceux de plusieurs autres maladies. Ça a commencé avec une paralysie du côté gauche, se souvient Vanessa Grenier, mais à l'hôpital, on me disait toujours la même chose, c'est dans ta tête. Après des années à tenter de mettre un nom sur le mal qui l'affligeait, Vanessa Grenier a finalement obtenu un diagnostic de la maladie de Lyme après être allée consulter un médecin à Plattsburgh, donc dans l'État de New York. Jusqu'ici, Vanessa Grenier a dépensé quelques 5 000 $ pour obtenir un diagnostic. Et même si elle a finalement obtenu une réponse, la jeune femme est encore très hypothéquée par la maladie. Elle devra ingérer de nombreux médicaments pour tenter de mettre le mal en dormance si elle veut retrouver un semblant de vie normale. Les médecins du Québec ne sont même pas capables de reconnaître que cette maladie peut exister et que les gens sont vraiment malades et ils sont vraiment mal informés, conclut-elle. J'ai envie de m'adresser à ce monsieur en lui disant « Bonjour à vous, cousin animateur », puisque Frédéric Bisson est animateur de radio à Rythme FM en Outaouais. Bonjour, monsieur Bisson. Bonjour, Frédéric.
Ben oui, bonjour. On n'est pas obligé de dire cousin, cousine. Là, on peut y aller directement avec Frédéric Fleury.
Non, c'est ça. Non, non, mais c'est parce que je faisais évidemment référence au texte que vous avez fait sortir en tant que... Bon, on va recommencer par le début. Frédéric, vous avez été très tardivement diagnostiqué avec le syndrome d'Asperger. Ça s'est déroulé à l'âge de 35 ans. Vous êtes animateur de radio. Ouais. Est-ce que je peux vous demander votre âge actuellement? Ça fait combien de temps que vous le savez?
Oui, ça fait 6 ans. Je viens d'avoir 41 ans. Donc, effectivement, j'ai su très, très tôt que j'étais différent. J'ai eu 6 diagnostics qui n'étaient pas les bons jusqu'à l'âge de 35 ans où là, je suis allé chercher non pas un, mais 2 diagnostics de 2 médecins différents qui m'ont confirmé la même chose. Donc, ça fait à peu près 6 ans que je vis maintenant en sachant que ce que j'ai, ça s'appelle le syndrome d'Asperger.
D'Asperger. Et ça doit être drôlement différent. Ça doit vous changer la vie quand même. Hein?
Oui, c'est sûr, parce que quand je l'ai appris, moi, je ne savais pas que ça existait. On m'aurait dit que j'étais autiste. J'aurais dit, ben non, pour moi, les autistes, c'est pas ça. Mm-hmm. Et c'est mon médecin de famille qui a été très, très allumé et qui s'est mis à avoir des signes très petits dans mes comportements. Mm-hmm. Et quand j'ai rempli les tests, et on m'a dit, oui, c'est de l'autisme qui s'appelle Asperger. Ben, je me suis vraiment mis à pleurer parce que ça venait de fermer des années de recherche et de recherche de pourquoi je suis différent. Alors, ça fait énormément de bien de le savoir, oui.
Même dans votre famille, j'imagine que du côté de vos parents aussi, il devait y avoir une inquiétude terrible.
Ben, oui et non, parce que mes parents, je l'ai toujours bien caché, moi, parce que on dit que les autistes Asperger développent un talent souvent en mathématiques, en sciences, oui, en dessin technique. Moi, ça a été les communications. Donc, très jeune, quand je me suis rendu compte que je communiquais pas comme tout le monde, que j'avais pas le même visage que tout le monde et tout ça, dès l'âge de 8, 9, 10 ans, j'apprenais par cœur la télévision, comment les gens bougeaient à la télé. Donc, j'arrivais à paraître, là, puis j'aime pas le mot, là, mais à paraître normal.
Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Vous les imitiez.
Donc, j'imitais les gens. Donc, dès que j'étais devant mes parents, ma famille, je paraissais normal. Alors, eux, même encore aujourd'hui, il y en a qui croient pas que je suis autiste. Parce que je suis capable de faire semblant d'être comme tout le monde. Alors, c'est ça.
Oui, parce qu'avec ça, je lisais quelques mots dans ces lettres. Hein. C'est un blog, hein, je pense, que vous écrivez, où vous vous adressez à vos cousins humains, d'où mon petit clin d'œil tantôt. Et entre autres, vous avez refusé d'aller au party de Noël et vous expliquez pourquoi. Voulez-vous nous en parler?
Ben c'est très drôle parce que on a un nouveau patron au bureau, puis quand je lui ai dit ça, moi je vais pas partir de Noël, il dit ben non, c'est impossible. T'es l'animateur de l'émission du matin, tu ne peux pas ne pas y aller. Tu dois m'écrire pourquoi tu y vas pas. Oui. Alors j'ai dit parfait, je vais écrire un blog. C'est que pour moi, je fonctionne avec une espèce de grand livre virtuel dans ma tête que j'alimente à tous les jours. Donc là, je sais, par exemple, je suis dans mon salon, je reçois un appel, parfait, je dis bonjour, tout ça. Mais si je suis dans mon salon et que quelqu'un vient me dire bonjour, ben là, est-ce que c'est le concierge? Oui, OK. Alors, page 48, je lui réponds comme ça. Est-ce que c'est plutôt un agent d'assurance? Oh, non, c'est pas la même chose, donc j'ai pas le même code. Quand vient le temps d'arriver dans un party de bureau, c'est que ce sont nos mêmes collègues de travail avec qui j'ai des codes pour interagir. Mais ces collègues de travail-là, du jour au lendemain, ont des habits différents, se sont nichés, qu'on voit leur conjoint-conjointe, mm-hmm. un peu d'alcool, je ne les connais pas. Alors pour moi, ça devient un événement traumatisant, je ne peux pas avoir de référence.
Et c'est parce qu'aussi, ils sont en votre présence. Par exemple, là, hein, c'est pour essayer de mieux comprendre, hein, Frédéric.
Oui,
là, nous parlons, mais nous ne nous voyons pas.
Exact.
Est-ce que le fait que nous ne nous voyons pas vous aide? Est-ce que là, vous êtes obligé d'ouvrir des petits tiroirs aussi avec moi pour me répondre ou est-ce que vous vous sentez...
Toujours. Dès qu'il y a conversation, je suis comme debout sur un trampoline et si je veux rester debout, je dois m'adapter et j'ouvre toujours des petits tiroirs. Par contre, c'est beaucoup plus facile parce qu'on ne se voit pas. C'est facile aussi pour moi en personne quand c'est un service que je paye. Donc, quand je vais voir un massothérapeute ou quand je vais voir un médecin, c'est plus facile pour moi d'interagir parce que c'est un service que je reçois. Là où c'est difficile, c'est quand ce sont des gens avec qui je travaille et
bien
où
sûr.
Ça devient personnel. Quand c'est des services professionnels, j'ai pas de problème. Quand c'est de rencontrer des auditeurs, j'ai pas de problème. On parle de travail. Mais dès qu'il faut se livrer personnellement, qu'il y a un peu de séduction, de vin rouge, c'est là où ça fonctionne plus pour moi.
Non, je comprends. Donc, en tant qu'animateur de radio, je veux dire, vous n'avez pas de problème, tout se passe bien. Est-ce que, parce que bon, vous avez fait publier un papier, hein, je crois, c'était le 30 décembre dernier, c'était un petit peu comme un coming out là, que vous avez fait en disant oui, je suis Asperger. Là, j'ai deux questions. Est-ce que ça vous a fait du bien de le dire? Est-ce que ça a changé quelque chose? Et deuxièmement, est-ce que vous vous sentez comme un modèle finalement?
Ça fait du bien parce que j'ai tellement fait de mal dans le passé ou mal agi avec des gens et j'ai pas le temps, je peux pas les rappeler tous et leur dire je m'excuse. Maintenant que je sais que je suis Asperger, j'étais pas menteur, j'étais pas snob, j'étais pas méchant, j'étais juste comme ça. Puis c'est vraiment pour que les gens qui ont été blessés, donc ça me fait du bien. Maintenant, ça me fait peur. Je me sens tout nu. J'ai l'impression que les gens vont me voir uniquement comme ça, donc j'ai un peu peur. Et modèle, je trouve ça difficile parce que je suis pas médecin, j'ai pas de référence, mais je n'ai que mon expérience à moi. Par contre, je reçois des centaines de messages et les gens disent que je suis un peu une sorte de modèle dans le sens où, ah, il y en a un qui a réussi, voici, il s'exprime, ça nous donne quelque chose qui nous dit que c'est peut-être possible de réussir nous aussi. Alors ça, je le prends et je l'accepte.
Écoutez, Frédéric Bisson, honnêtement, j'aurais passé, je pense, une heure avec vous. Parce que c'est vrai que c'est intéressant, tout d'un coup, de parler directement avec quelqu'un, d'une part, qui fait le même métier que moi, mais ensuite, on sait beaucoup, puis on sait rien là-dessus. Je veux dire, parce que tant qu'on n'est pas dans l'esprit de quelqu'un,
On voit pas. Et là, justement, je vais retourner après l'entrevue chez moi, je vais m'étendre sur mon sofa, je vais regarder le plafond, pendant à peu près une heure et demie sans bouger, parce que c'est ça aussi être Asperger, et je vais me questionner sur les 6 dernières minutes qu'on vient de passer ensemble.
Eh bien, écoutez, j'espère que ce sera un bon questionnement et que vous allez en garder un bon souvenir, Frédéric. En tout cas, je vous dis bravo pour ce coming out, et je suis quasiment sûre que vous allez me répondre « merci, c'est gentil ».
Je dirais pas ça, alors je vais dire à la prochaine.
OK. Alors, vous m'avez bien
eu.
Allez, merci beaucoup, Frédéric. Puis au plaisir de vous entendre. Mais je pense qu'on est à peu près dans les mêmes heures, peut-être en ondes. Enfin, en tout cas, bonne continuation à la radio chez vous.
Au revoir.
Au revoir. À Longueuil, près de 13 millions de dollars pour une passerelle pour piétons. Ça peut sembler beaucoup parce que, vous savez, c'est suite à cet accident qu'il y avait eu en février 2015, alors qu'un camion dont la benne s'était relevée avait quasiment complètement démoli la vieille passerelle qui était en place. Heureusement, il n'y avait personne et donc il n'y a pas eu de blessés. Mais c'est pour remplacer cette passerelle que la ville va donc débourser 13 millions de dollars dans la construction d'une nouvelle passerelle qui va enjamber la route 132. Et la ville affirme payer le juste prix au terme d'un processus d'appel d'offres qui a été accordé au plus bas soumissionnaire. La ville qui dit « on a voulu un accès qui favorise la mobilité active, notamment la cohabitation harmonieuse, non seulement des piétons, mais également des cyclistes et des gens à mobilité réduite ». C'est ce qu'a dit Louis-Pascal Cyr, le porte-parole de la ville de Longueuil. Une passerelle qui sera aussi dotée d'un belvédère duquel on pourra admirer non seulement le parc, mais également le fleuve et la ville de Montréal de l'autre côté. On sait que, par exemple, certains viaducs pour voitures n'ont même pas coûté ce prix-là. C'est pour ça qu'il y a pas mal de gens à Longueuil qui se demandaient si c'était bien raisonnable. Extraordinaire, près de 40 000 dollars récoltés contre la sclérose en plaques. En fait, c'est pour venir en aide à deux beaucerons atteintes de cette maladie. Et c'est une soirée bénéfice qui a été organisée samedi dernier au restaurant L'Index de Saint-Georges en Beauce, écrit Stéphane Quintin, journaliste au journal En Beauce. Samedi dernier, alors a eu lieu à Saint-Georges, à ce restaurant, la troisième édition de cette soirée bénéfice organisée depuis 2015 par Kennebec Dodge Chrysler, Excavation La Pointe et Fils, ainsi que l'Index. Et chaque année, les trois partenaires choisissent d'aider une bonne cause de la région en organisant une soirée bénéfice composée d'un souper de divers encans, le tout dans une ambiance musicale à l'atmosphère survoltée avec des enchères qui ont grimpé jusqu'à 1 600 $. Près de 200 commanditaires ont participé à l'événement comme Mobilis ou encore Éric Lessard de Style Musique. En tout, la soirée a permis de récolter précisément 38 145 $ intégralement reversés à Francine Catelier et Jennifer Stone, deux habitantes de la Beauce atteintes de sclérose en plaques. Ça a été des années très difficiles à témoigner Jennifer Stone avec la maladie, l'enfant au travers de tout ça, les problèmes financiers. De pouvoir bénéficier d'un répit à la maison pour prendre soin de moi, c'est exceptionnel. Il n'y a pas de mots pour décrire à quel point je veux vous remercier au nom de ma famille, de mon conjoint et de ma petite fille. L'argent servira notamment à financer une partie d'une opération médicale importante prévue aux États-Unis. Ça bouge beaucoup en région, énormément d'organismes font leur part aussi et c'est notamment le cas de la dynamique des handicapés de Granby et région. Je vais maintenant m'adresser à sa coordonnatrice qui est Marie-Christine On. Je prononce bien votre nom, madame?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour. Parfait. Alors, j'hésitais avec On peut-être, H-O-N, donc c'est bien On.
Absolument.
D'accord. Alors, madame, c'est la première fois, je pense, que vous participez à cette émission des par actualité.
Oui, au témoin, tout à fait.
Alors, j'aimerais qu'on fasse un petit peu connaissance avec cet organisme dont je rappelle le nom, la dynamique des handicapés de Granby et région.
Oui. Alors, écoutez, notre organisme, en fait, est un organisme de défense de droits pour les personnes handicapées ou en perte d'autonomie.
OK, d'accord. Donc, le spectre est assez large.
Le spectre est large. En fait, nous faisons la défense des droits et la promotion également des intérêts pour les personnes qui ont tout type de handicap, qui sont en perte d'autonomie dans la MRC de la Haute-Yamaska.
D'accord. Et quand vous parlez de défense de droits, on parle à tous les niveaux, juridiques, sociaux
Alors, c'est un... Oui, en fait, on peut accompagner les personnes sur un soutien individuel. Mmh. On peut également intervenir dans les dossiers, tout ce qui est dossier politique, tout ce qui sont des dossiers qui touchent aux défenses des droits fondamentaux des personnes.
Mmh. Et également, quand si par exemple une personne a besoin de support pour s'intégrer dans un travail, j'imagine que là aussi...
Également, on fait des rencontres individuelles, on fait du support d'intégration. Mmh. On a des activités également pour que les personnes qui ont besoin d'avoir des renseignements puissent avoir... On a des conférences qui leur sont offertes.
Okay.
Donc, à tout niveau, également, admettons qu'on ait quelqu'un qui ait besoin d'être représenté ou d'être accompagné plutôt, admettons, à la régie du logement.
Oui.
S'il y a une défense de droit à faire ou s'il y a quelque chose qui peut les aider, ben, on va pouvoir les accompagner également.
Par rapport au transport adapté, est-ce que vous agissez aussi si quelqu'un...
On agit au niveau des transports. En fait, on agit à tous les niveaux, souvent conciliation, je dirais, le plus souvent possible. C'est même la majorité des cas. À tous les niveaux, du transport adapté, professionnellement, toutes les personnes qui peuvent avoir la sensation ou malheureusement vivre une situation où leurs droits sont peut-être un petit peu mis à mal.
Oui, bafoués. Hein?
Oui, oui, ça peut être simplement quelqu'un qui ne connaît pas les mesures d'accessibilité, par exemple. Ça peut être un refus d'embauche non formulé, mais parce qu'on soupçonne qu'il y a un handicap ou des choses comme ça.
Oui. Est-ce qu'il y a des dossiers particuliers dans votre région?
Absolument. Oui. Sur la région de Granby, Waterloo, que l'on décide. Sainte-Cécile de Milton, on a 8 communes en fait dans la MRC. On a les logements sociaux qui sont une problématique parce que les personnes qui ont un handicap, surtout à long terme, ont souvent des plus faibles revenus.
Oui.
On a un manque de logements adaptés également.
Oui.
Et puis actuellement, on est sur le dossier des soins à domicile.
OK, ça fait beaucoup. Les soins à domicile, hein, Dieu sait si c'est là, parce que c'est vrai de toute façon pour la majorité de la population.
Oui.
Mais j'avais l'impression qu'en Estrie, justement, vers Granby, Waterloo, tout ça, j'avais déjà lu, il me semble que les gens étaient peut-être un peu mieux servis, mais...
Il y a actuellement une problématique dont on est en train de s'occuper en lien avec une décision qui a été prise par le gouvernement. Donc au niveau notamment des ESSAD, c'est-à-dire les entreprises qui sont à but non lucratif pour les soins à domicile. Donc c'est une problématique toute nouvelle que l'on a depuis 2016 et dont on est en pleine effervescence actuellement. Mm-hmm. Oui.
Êtes-vous une grosse équipe parce qu'on ne se rend pas compte? Vous êtes combien?
Non, en fait, nous ne sommes pas une grosse équipe en permanence. Je suis la coordonnatrice. Mm-hmm. Actuellement, on est en préparation d'un colloque. J'ai une chargée de projet.
D'accord.
Donc, en fait, nous sommes une petite équipe.
Une petite équipe. Et j'imagine que vous aussi, vous avez toujours besoin de bénévoles, de ressources.
Oui, on a besoin de bénévoles, on a besoin de ressources. Ce n'est pas toujours évident parce que nous ne donnons pas d'activité les récréatives en réalité.
Okay.
Ce sont des activités d'information à nos membres, toujours axées dans la défense des droits pour leur apporter un maximum. Alors c'est sûr que le bénévolat est un petit peu moins, je dirais, peut-être pertinent ou intéressant pour certaines personnes. Mm-hmm. Mais effectivement, plus on a de personnes, plus on peut faire d'activités.
Bien sûr. Et si des gens étaient intéressés à vous contacter la Haute-Yamaska, on fait comment pour vous joindre alors?
Alors, pour nous joindre, il y a plusieurs façons. Il y a notre page Facebook, Dynamique des handicapés de Granby et Région. Il y a notre site web au www.dynamiquehandicap.ca. J'ai une adresse...
Dynamiquehandicap.ca, d'accord.
Oui, dynamiquehandicap avec un E.ca. Et les personnes peuvent devenir membres actifs, peuvent devenir membres de soutien, membres corporatifs, ou tout simplement venir proposer leurs services pour des comités qui pourraient les intéresser.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je suis très contente, Madame Hon, qu'on ait fait connaissance comme ça. Avec votre organisme et je vais vous souhaiter bonne chance. On aura peut-être l'occasion de se reparler. N'hésitez pas à nous contacter s'il y a un dossier dont vous désirez parler plus spécifiquement ici sur notre antenne.
Je n'y manquerai pas. Je vous remercie de nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer.
De rien. Bonne journée.
Merci, bonne journée, madame.
Au revoir.
Au revoir.
Actualité nationale maintenant, une compétition nationale au Canada recherche d'excellentes nouvelles idées afin de soutenir le vieillissement en bonne santé. Age Well et Hacking Health ont lancé une compétition nationale nommée Idéathon qui se tiendra dans 5 villes au Canada en 2017. L'objectif de cette compétition consiste à trouver de nouvelles technologies et de nouveaux services exceptionnels qui favorisent le vieillissement en bonne santé et d'investir dans ceux-ci. L'idéathon national d'AgeWell et de Hacking Health remettra au total 75 000 $ en argent et en services en nature. Des compétitions locales se tiendront à Toronto le 3 février, à Montréal le 3 mars, à Halifax le 13 mai et à Vancouver. La date sera annoncée ultérieurement. Un projet sera sélectionné lors de chaque compétition locale et sera admissible à la grande finale qui se tiendra à Winnipeg du 17 au 19 octobre 2017 dans le cadre de la conférence annuelle d'AgeWell 2017. Alors, les personnes intéressées à prendre part à la compétition peuvent s'inscrire simplement en allant sur le site internet d'AgeWell. Alors, ça s'écrit www.age comme âge, en fait, et c'est en majuscule, mais j'imagine qu'on peut le mettre aussi en minuscule, trait d'union, well comme well, W-E-2-L. Voilà. Et qu'est-ce qu'un idéathon? Ah, ben voilà une bonne question. Un idéathon, c'est un événement collaboratif de type atelier où différents intervenants mettent en commun leurs connaissances et leur créativité pour effectuer un remue-ménage servant à trouver des solutions novatrices aux défis les plus urgents. Les participants utilisent des méthodes et techniques de conception centrées sur l'utilisateur comme l'idéation, la schématisation du cheminement et le prototypage et formule une stratégie entrepreneuriale liée à la commercialisation de cette solution pour arriver à une proposition novatrice. Alors, ingénieur en herbe, c'est le temps de vous manifester. Par actualité internationale, un article qui nous vient de l'AFP, l'interdiction, c'est Moscou qui est condamné pour avoir empêché des Américains d'adopter des enfants. L'interdiction par la Russie à des ressortissants américains d'adopter des enfants russes sur le seul fondement de leur nationalité a constitué une discrimination, a estimé mardi la Cour européenne des droits de l'homme, acronyme CEDH, une décision aussitôt dénoncée par Moscou. La Cour avait été saisie par 45 Américains en leur nom propre et au nom de 27 enfants russes pour lesquels ils avaient entamé, entre 2010 et 2012, des procédures d'adoption. Beaucoup de ces enfants souffraient de graves problèmes médicaux, trisomie 21, troubles du développement, etc., nécessitant des soins médicaux spécialisés. Alors que les procédures d'adoption étaient sur le point d'aboutir, elles furent brutalement closes en raison de l'entrée en vigueur le 1er janvier 2013 d'une loi interdisant aux ressortissants américains d'adopter des enfants russes. Cette loi, qui a suscité de vives critiques de la part d'Amnesty International et de Human Rights Watch, a été votée en représailles à une loi américaine sanctionnant des responsables russes pour la mort en prison en 2009 d'un avocat russe qui s'appelait Sergueï Magnitsky. Moscou va examiner cette décision d'ici 3 mois et préparer un fondement juridique pour faire appel devant la Grande Chambre de la CEDH, a indiqué le ministère russe de la Justice dans un communiqué. Le gouvernement russe avait mis en avant l'objectif de protéger les enfants, alors que les médias nationaux évoquaient des cas de mauvais traitement d'enfants adoptés aux États-Unis et celui d'encourager l'adoption de ces enfants en Russie. La CEDH a condamné la Russie à verser à chacun des couples ou des personnes concernées 3 000 euros pour dommages moraux. Le comité canadien, paralympique canadien invite les candidatures pour les subventions 2017-2018 pour aider à couvrir les frais des programmes de développement des sports paralympiques. Le comité paralympique canadien invite les organisations et les clubs sportifs canadiens à poser leur candidature à compter d'aujourd'hui pour la ronde de subventions 2017-2018 du Fonds de développement du sport paralympique. Le Fonds de développement du sport paralympique, anciennement appelé le Fonds de développement du système, cible les projets sportifs qui aident à développer des athlètes du terrain de jeu jusqu'au podium. Des montants de financement entre 5 000 et 15 000 $ seront disponibles. Par le Fonds de développement du sport paralympique, le Comité paralympique canadien investit dans la programmation du développement du sport, dont les projets de recrutement, les entraîneurs, l'équipement, la compétition et plus. Les fonds peuvent être utilisés pour soutenir la création d'un nouveau programme ou pour l'expansion d'un projet existant couronné de succès. Veuillez visiter paralympique.ca/les fonds pour poser votre candidature. Les directives sur comment et pourquoi et où et que faire, vous trouverez tout cela sur ce site paralympique.ca/les fonds. Voilà, ainsi s'achèvent les paractualités, en ce 19 janvier 2017. Et d'ailleurs, pour cette semaine, vous pourrez retrouver peut-être les meilleurs moments de cette émission dans l'émission Le National que je vous proposerai dès demain. Merci à toute mon équipe pour cette semaine, Mathieu Tessier et Martin Fork. C'était Clotilde Say qui vous donne rendez-vous lundi, 11h30.